Allô tout le monde et re-bienvenue sur le divan. Cette semaine, je vous propose un épisode, encore là, qui selon moi se doit d'être fait, enregistré, partagé par rapport à un podcast qui est sur la santé mentale, sur ce sujet-là. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du réflexe que j'ai et que je sais que vous avez peut-être aussi de souffrir ou quand on souffre de le faire dans la solitude. Donc, un épisode qui va parler de la difficulté qu'on peut avoir à demander de l'aide quand on en a besoin, le réflexe que nous avons de s'auto-suffire et de vivre nos choses un peu cachées, isolées, loin des gens, malgré le fait qu'on peut être entouré d'un paquet de monde qui peuvent nous aider, qui voudraient nous aider, qui nous aiment, qui veulent nous supporter. Mais dans le fond, même si on sait ça, quel point que ça peut être difficile de lever la main quand il faudrait le faire. Donc, si vous avez cette tendance-là aussi, je vous inviterai à rester. En principe, c'est un épisode qui devrait vous parler. Je commence par une citation. S'il y a une personne sur la planète qui souffre encore de solitude et de douleur ou de désespoir, et que nous ne le savons pas, ou que nous ne voulons pas le savoir, alors quelque chose ne va pas dans le monde. Et ça nous vient de Elie Wiesel. Il y a certaines citations, des fois, qui résonnent comme ça, mais celle-là, elle a résonné, mettons. Vraiment loin, haut et fort, en dedans de moi. La raison du podcast, c'est ça. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter. Pour moi, je fais ce que je fais. La raison pour laquelle je coach, la raison pour laquelle n'importe quel élan que j'ai par rapport à ce grand projet, si on veut, que j'ai d'aider les gens, c'est pour rejoindre les gens que je sais qui souffrent seuls maintenant. Pour un paquet de différentes raisons. Il y a des gens qui le savent peut-être très bien, qui auraient besoin de thérapie, qui auraient besoin de coaching, mais qui ne peuvent pas se le permettre, qui ne sont pas prêts à lever cette main-là, à cogner à ces portes-là. Il y a des listes d'attente, évidemment, qui débordent, donc il y a des gens qui savent qu'ils en ont besoin, qui ont levé la main, puis qui sont en attente, ce que j'ai déjà dit, et que je trouve encore qui est, en fait, déplorable. Je comprends, mais qu'il faut comme faire mieux. Rejoindre n'importe qui, pour n'importe quelle raison, qui souffre par rapport à la santé mentale, de quelle que soit la sorte, le but de ma mission, de ma carrière, de qu'est-ce que je suis supposé faire professionnellement, je crois, sincèrement, que c'est de vous rejoindre dans ces espaces-là, comme je le pourrais, si vous le voulez bien. J'ai fait une vidéo que j'ai postée sur les réseaux sociaux qui était essentiellement quand vous avez besoin. Bon, le message, si on veut, essentiellement était quand vous avez besoin d'aide, criez-le. C'est d'aller à l'encontre, dans le fond, du réflexe de vouloir souffrir seul puis de se cacher dans cet isolement-là, c'est de faire l'inverse puis de le crier pour s'assurer que vous allez être entendu, dans le fond. Et c'est une vidéo qui a été difficile pour moi de faire, de créer, mais qui se devait d'être fait, je suis fier d'avoir fait, et qui a résonné encore là beaucoup avec les gens. On est plusieurs, je crois, à souffrir seul ici et là parce qu'on croit que c'est ce qu'il faut faire. Des fois, c'est un choix, pas de choix, mettons. Parce qu'il y a des gens, évidemment, qui malheureusement n'ont pas le système de support dont je parle, donc qui pourraient vraiment nous dire « Moi, j'ai plus de famille, exemple, ou j'ai perdu mes amis, ou je suis déménagé, maintenant je suis loin de tout le monde, j'ai pas accès à un professionnel. » Il y a des gens qui vraiment sont littéralement seuls. Donc ça, c'est toute autre paire de manches, là. C'est un niveau du besoin qui est très grand, évidemment. Mais il y a évidemment aussi des gens qui ont au moins une personne dans leur entourage, de près ou de loin, mais en qui ils ont confiance, qui savent qu'ils pourraient demander de l'aide à cette personne-là et, pour plusieurs raisons, évitent de le faire ou ne le font pas. On a tendance à s'isoler quand ça va pas bien. Encore là, je parle pour moi, mais je parle pour ceux qui ont tendance à s'isoler aussi, parce que je peux pas être la seule. On aime bien, je pense, en tant qu'être humain, de se montrer sous notre beau jour, comme à tout prix. L'exemple classique, évidemment, c'est les réseaux sociaux, là. Si tu files pas, puis tu veux empirer ça, ben comme faut, tu embarques sur Instagram, puis va zioter un peu les photos des gens à leur meilleur à peu près tout le temps, puis je pense que c'est humain, là, il y a quelque chose qu'on aime se montrer de cette façon-là, parce qu'évidemment, bon, c'est l'image, c'est un peu notre réputation, c'est ce qu'on envoie aux autres, et de se montrer quand ça va pas, ben, il y a quelque chose qui va à l'encontre de notre image qu'on aime mettre de l'avant. C'est normal, on comprend. Et je pense que ça fait partie du problème. Et le problème, il est gros. Parce que si on s'entend tous à se dire que non, mais quand ça va pas, reste caché puis fais juste me montrer et faire grossir les moments qui vont super bien, que t'es au-dessus de tout, ben ça me donne évidemment l'impression que moi aussi, il faut que je fasse pareil. Puis là, on est juste un paquet de monde qui joue une game, d'un. Ça crée zéro connexion, zéro proximité dans nos relations, mais en plus, c'est pas vrai. Et ça veut dire, évidemment, qu'on est plusieurs à devoir ravaler les trucs qui sont plus difficiles. Et c'est là qu'on aurait besoin de se sentir connecté. C'est tellement contre-productif parce que c'est exactement là qu'on aurait besoin d'être vu, d'être entendu, c'est quand ça va pas. Mais si on s'entend tous collectivement à se dire « Non, mais ça, on n'a pas le droit de le montrer, on se donne pas cette permission-là, ça nous donne zéro liberté d'être. » quand ça va bof, puis quand ça va pas pantoute. Puis on se ment à soi-même. On ment aux autres, oui, mais on se ment à soi-même. Parce que, ben, faut pas vraiment que je l'entende quand ça va pas. J'ai juste le droit au moment que ça va bien. Mais quand ça va pas, on fait quoi avec ça, dans le fond? On s'habitue à avoir mal, puis on s'habitue à avoir mal seul. Ça devient une habitude, dans le fond. Puis c'est dangereux, là. C'est vraiment dangereux pour plusieurs d'entre nous, cette espèce de réflexe-là. On se dit, on dirait, pour moi, encore là, que personne ne comprendrait. Ce que je vis difficile, il n'y a personne qui pourrait possiblement comprendre ce que je vis. On ne veut pas être un fardeau pour l'autre. On a peur d'être trop. Trop lourd, trop négatif, trop dans le besoin, dans le fond. Puis que ce soit lourd pour l'autre. Donc, il y a quelque part où on a peur de faire peur à l'autre ou de déplaire l'autre, qui fait qu'on n'ose pas. J'ai souvent eu peur de l'intensité de mes émotions moi-même. Donc, exemple, ma tristesse, là, j'avais tellement peur, pas juste de ressentir et de goûter la tristesse, mais à quel point c'était intense. Donc, j'ai souvent cru que de la montrer à l'autre, mais je ferais peur à l'autre aussi. Puis l'autre serait juste pas capable de dealer, serait pas capable de m'accompagner là-dedans de toute façon, ça serait pas aidant. Puis, que les gens veulent pas vraiment ça, là. Ta lourdeur, garde-la, parce que sinon ça va être lourd pour moi, dans le fond. Donc, merci de garder ça pour toi. J'ai comme acheté que c'était ça. Être en relation, dans le fond. Puis, avec les années, avec tout l'apprentissage que j'ai fait, le développement personnel que j'ai fait, j'ai compris que ce vécu-là, là, ce réflexe-là, vient beaucoup de la relation que j'ai avec ma mère, avec ma maman, de quand j'étais enfant. J'ai comme acheté qu'il fallait surtout pas que j'en rajoute. Donc, ma mère, ses émotions, bon, je suis hyper sensible, je suis empathique, full pin, et Dieu merci, ça va très bien dans le métier que j'ai choisi, ça va ensemble. Mais, je veux dire, les émotions qu'elle pouvait vivre, je les ressentais comme si c'était les miennes, dans le fond. Même très jeune, c'était à moi aussi d'épauler ce que ma mère, l'adulte, vivait. Donc, je sentais qu'elle vivait des grosses choses, des grosses émotions. L'intensité des émotions que je sentais chez elle me faisait peur aussi. Et là, dans ma petite tête d'enfant, il s'est installé quelque chose qu'il ne fallait pas que j'en rajoute. Et vraiment, là, je suis certaine que c'est un vécu qui est très fréquent, surtout quand on est élevé par un seul parent. Il y a comme une analogie à laquelle je retourne souvent. C'est un peu comme si on est dans une chaloupe, elle et moi, ma survie dépend de cette femme, dépend de la chaloupe, mais dépend de cette femme, puis il faut pas que la chaloupe chavire. Donc si en tant qu'enfant, de dire que c'est inconscient pour un enfant, c'est de minimiser, là, c'est sûr que c'est très inconscient, mais en tant qu'enfant, je me disais, c'est déjà lourd dans chaloupe, donc c'est déjà précaire comme situation, si moi je rajoute mes émotions, mon intensité, on va chavirer. Donc, c'est comme si j'avais décidé que j'allais régler mes shit émotionnels moi-même. C'est jamais venu d'elle, évidemment. J'ai une mère exceptionnelle qui, si elle avait su tout ce que je vivais enfant, elle aurait été atterrée de savoir que je vivais tout ça, que je vivais cette même intensité, puis que j'étais autant empathique à elle et toujours en train de penser de pas lui faire plus de mal, disons. C'est vraiment un engagement que j'ai pris, c'est un contrat que j'ai signé avec moi-même sans le savoir. C'est drôle parce que maintenant, un des travaux que je fais, que je propose à mes clients, les photos d'enfants que vous avez, il y en a au moins une probablement qui vous parle plus, là, d'avoir des photos d'enfants près de vous, dans votre bureau, peu importe, sur un miroir, et de se reconnecter à cet enfant-là est thérapeutique en soi. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, il y a tellement de choses qu'on peut dire à cet enfant-là, et je vous le jure, la puissance de ces exercices, ça me pitch à terre à chaque fois, là. Donc, j'ai des photos de moi enfant et j'étais tellement cute que c'est le fun de regarder. J'en ai un petit peu partout et une des choses que j'ai fait récemment quand je m'apprêtais à faire cet épisode pour vous, c'est que je me suis regardé dans les yeux d'enfant, dans le fond, sur cette photo, et je me suis demandé quand est-ce que t'as commencé à arrêter de demander de l'aide quand t'en avais besoin, en fait. Comme jeune, surtout avec une maman poule, je sais que je demandais de l'aide au début, là. Je me souviens que si j'avais un bobo réel, physique, sain, là, si on veut, ou donc visible, ou un bobo pas visible, psychologique, mon ami elle me parle plus, puis je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai fait, puis je sais pas quoi faire, là, exemple, j'allais la voir. Mais à un moment donné, j'ai arrêté. À un moment donné, j'ai arrêté de le faire, j'ai arrêté de lever la main, même si j'avais une mère qui aurait toujours été là pour y répondre. Je sais, je le savais à l'époque, je le sais maintenant, mais à un moment donné, j'ai arrêté. Puis, entre autres, il y a un complexe de culpabilité qui s'est installé là-dedans quand je vous parle de la chaloupe. Je me sentais coupable tout d'un coup, à un moment donné, d'en rajouter dans chaloupe. De rajouter de l'impuissance à l'autre. Parce que, surtout pour les fameux bobos non visibles, psychologiques, je sais que ma mère aurait eu de la peine, en fait, de me voir dans la peine. Puis souvent, c'est des choses qu'on peut pas arranger ou corriger pour l'autre. C'est vraiment juste d'être là pour l'autre en support. Et donc, ça évoque de l'impuissance chez l'autre. Puis ça, je sais qu'à un moment donné, je me suis dit, je ne veux pas faire ça à ma maman. Je ne peux pas faire ça à ma maman. Et dans tout ça, il y a une peur aussi qui s'installe d'être rejeté ou abandonné pour toute l'intensité émotive que j'avais, si on veut. D'être rejeté et abandonné dans cette émotion que je trouve déjà super intense, qui donc rajoute là en plus de la peine d'être rejeté et abandonné. Je veux dire, pour moi, il y a comme un non-sens. Je trouve que c'est bien de gérer tout seul parce que ça va être juste pire. On ne pourra pas m'aider. J'avais comme décidé ça, mais en plus, l'émotion désagréable que je veux pas vivre, ben là, je l'ai grossi puis j'en ai juste plus. Donc, ça donnerait quoi? Donc, c'est toutes des décisions inconscientes que j'ai prises enfant pour sauver, si on veut, dans ce cas-ci, ma mère ou n'importe quel adulte ou n'importe quelle personne que j'avais devant moi. Moi, dans ma tête, c'était être une bonne petite fille qui fait ces choses de la bonne façon, je sais pas trop, ben c'est que ça, là, l'espèce de tot feeling que j'ai moi, mais il faut que je les gère. Ça appartient pas à l'autre, c'est à moi de le faire, donc de m'autosuffire. Puis, règle générale, j'espère, on a tous quelqu'un dans notre entourage qui saurait, qui pourrait nous écouter sans jugement dans ce qu'on vit. Il y a rien à faire pour l'autre quand on veut juste être présent à l'autre qui est dans la souffrance, quelle qu'elle soit, dans le fond. C'est pas comme si on a un mandat, là, parce qu'on a ça aussi, je pense, en tant qu'être humain, de dire, oh mon Dieu, tu sais, t'es triste, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je te l'enlève, cette tristesse-là, et tout. Et règle générale, les gens, ce qu'on veut, c'est d'être entendu, c'est d'être vu là-dedans, d'avoir l'espace pour exister avec cette souffrance-là, C'est ça, le support et le fait d'être épaulé, évidemment, crée un bond, puis c'est ça qu'on recherche. La majorité du temps, on peut gérer la situation s'il y a quelque chose à faire, parce que des fois, il n'y a rien à faire de toute façon, mais ça change tout d'avoir quelqu'un qui est là avec nous. Juste tout simplement. Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile de demander de l'aide pour autant d'entre nous? Il y a une différence entre un besoin de solitude, parce que ça, je l'aimais tellement fort, là. Je suis introverti, je suis empathique, je suis hyper sensible, je l'ai dit, donc c'est sûr que moi, des moments de solitude, c'est ma survie. D'être avec la personne la plus importante dans notre vie, qui est nous-mêmes, ça devrait être évidemment quelque chose qui est bon, quelque chose qu'on recherche. Mais moi, je suis fait de la sorte que j'ai pas le choix d'avoir énormément de temps seul, par jour, pour pouvoir ensuite être présente à toi, à l'autre, à n'importe qui, les autres moments de la journée. J'en ai besoin. La solitude, c'est pas le problème. L'isolement, c'est autre chose. Puis, l'épisode que je suis en train de faire, c'est vraiment, je vous demande, je vous rends l'appareil de vous demander à quel point êtes-vous à l'aise de demander de l'aide quand vous en avez besoin, dans le sens de votre santé mentale, dans le sens de comment vous allez, dans le sens des humeurs dans lesquelles vous marinez dans le moment. Lorsque ça ne va pas, est-ce que vous osez lever la main? Et sinon, pourquoi? C'est quoi les peurs derrière ça? Quand est-ce que vous avez peut-être osé lever la main et que ça a vraiment mal viré, puis que vous avez peut-être décidé comme moi enfant, ben ça c'est quelque chose que je ne referai plus. La peur de déplaire est souvent là aussi dans le cocktail, pour plusieurs d'entre nous. T'sais, je pense que, on fait souvent la joke, quand quelqu'un te demande comment ça va, dans le fond on s'attend pas mal à la réponse, ça va bien, merci toi. T'sais, c'est pas, je t'ai pas vraiment demandé comment ça va. Ben, de plus en plus, je pense qu'il y a des gens que quand je te demande comment ça va, c'est que je veux vraiment savoir comment ça va. J'ai pas le goût que tu me donnes la réponse facile, c'est pas pour ça. Je suis là pour toi, je te le demande pour vrai. Ça, c'est les gens qu'on veut autour de nous. Si j'ai peur de te déplaire, j'ai peur de te froisser avec une réponse de « Ouf, bon, de présentement ou ces temps-ci, ça va pas super », ben, c'est normal que j'aie peur d'oser avec toi parce que ça veut dire que j'ai pas de place pour être qui je suis dans notre relation. C'est tout. On a trop souvent peur de perdre l'appréciation de l'autre. L'admiration, des fois, en plus. Quand quelqu'un, on dirait, se met tout le temps au-dessus de ses émotions, puis que tout va toujours bien et tout, il y a comme quelque chose, il y a un respect. Quand on regarde cette personne-là comme, mon Dieu, elle est donc bien organisée, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle s'en va. Il y a quelque chose de t'es solide, t'es forte, c'est hyper valorisé. Et il y a une raison, il y a une valeur là-dedans. Il y a une valeur dans le fait de s'autosuffire aussi, d'être capable de prendre responsabilité de notre vie, d'être capable de tourner des situations difficiles à notre avantage, de reconnaître les ressources qu'on a, puis je veux dire, tout ça, c'est sublime, il faut ça. On l'apprend à nos enfants pour une raison. C'est quand on croit que c'est la seule chose auquel on a droit. C'est juste là qu'on a le droit d'exister que ça devient un problème. Si j'ai peur de perdre ton respect, ton admiration, voire ton amour, dès que j'ose te dire que présentement, je suis pas à 100%, il y a évidemment un problème. C'est des croyances béton qui sont dures à fragiliser plus tard quand elles s'installent dans notre enfance, en fait. Puis, si on fait ça, là, moi je décide que je m'autosuffis à tout prix, c'est sûr que je vais vivre du ressentiment si toi t'as besoin de moi, en retour. Parce que moi, mon fardeau, je suis obligé de dealer avec tout seul, fait que s'il te plaît, c'est assez lourd à porter, j'aurais besoin que toi tu gardes le tien de ton côté. J'ai peur d'être trop lourde, trop négative, trop égoïste, que tout autour de moi, je prends trop de place, tout le kit. Ben, si moi j'ose pas, j'aurais besoin que toi t'oses pas non plus. Puis, je vous parle de tout ça entre autres parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je me sentais hypocrite avec vous. Puis là, je voulais être honnête. Une des choses les plus difficiles que je vis en réponse à tout ce que j'ai parti comme projet cette année, le podcast, les vidéos, tout le kit, une des choses les plus difficiles, c'est vraiment vu que je raconte mon histoire, vu que je suis transparente, vu que je m'admets dans les moments justement qui vont pas, j'en parle tout le temps, partout, je rentrerai même pas plus dans les détails, si vous me suivez, si vous comprenez de quoi je parle, à force de ces petites anecdotes que j'enfile, ce qui est le plus difficile, c'est le feedback en fait des gens qui m'entourent, qui m'aiment vraiment, là, qui n'avaient aucune idée de la souffrance dans laquelle j'étais dans les années qui sont passées. Donc, qui aujourd'hui me disent « Pourquoi est-ce que j'ai jamais rien dit? Pourquoi est-ce que j'ai fait à semblant que? Pourquoi? » Puis vraiment, c'est une des questions très valables, mais c'est que les gens, ils me regardent comme « C'est parce que je te connais même pas, dans le fond. » Vu toutes les fois que tu aurais eu besoin d'aide, vu toutes les fois que c'était pas... que tu vivais pas ce que l'image de quitter nous reflétait, mais c'est des gens qui sentent que je leur ai menti ou que j'ai pas été authentique avec eux, et c'est des gens qui ont absolument raison. Donc, ils me demandent pourquoi est-ce que je me suis caché toutes ces années-là, pourquoi est-ce que je leur ai pas fait confiance, pourquoi je leur ai pas demandé, pourquoi je faisais comme si tout allait, si c'était pas le cas, pourquoi j'ai pas osé, et est-ce que j'oserais les prochaines fois? Donc, je me sens hypocrite parce que, entre autres, je vous demande à tous ceux qui m'écoutent, criez-le quand vous avez besoin d'aide, restez pas seul, c'est ce que je veux vous offrir, tout le kit. Et ça donne évidemment l'impression que moi j'ai compris ça, ce serait tout à fait normal que vous pensiez ça, qu'en réalité c'est encore difficile. En réalité, je peux pas promettre à ces gens-là de mon entourage qui m'aiment que la prochaine fois que ça va être difficile, je vais vous le dire. Parce que tout ce que je suis m'amène à faire l'inverse. C'est super difficile pour moi d'oser. Ça l'est encore. C'est moins difficile et j'ai pas l'excuse de j'ai personne autour de moi. J'ai un réseau de support inimaginable autour de moi. Je n'ai pas l'excuse. J'en ai pas. Je sais pas si la prochaine fois que ça va vraiment mal, je vais être capable de lever la main. Je sais pas si je vais le faire. Je sais qu'il faut le faire, par exemple. Et quand je vous demande de le faire à votre tour, c'est sincère. C'est absolument sincère. Mais mon élan automatique, mon réflexe, la tendance que j'emprunte à peu près tout le temps. Donc la réalité, c'est que quand je vis des trucs négatifs et intenses, c'est tellement puissant, j'ai goût de fuir, j'ai goût de me cacher, puis j'ai vraiment pas le goût que vous le voyez. Exemple, syndrome de l'imposteur, j'ai ça fort, me sentir surmené au bout, là, que j'ai l'impression que j'échappe toutes les balles puis que je roule à gros max 50% dans toutes les sphères de ma vie, donc je suis pas la mère que je veux être, je suis pas la blonde que je veux être, je suis pas la coach, je suis pas la fille qui anime un podcast. Tu sais, je suis en train d'échouer tout, là. Je me sens comme de la merde puis que tout ce que je fais vaut rien, puis que veux-tu bien me dire en quoi tu prétends pouvoir aider les autres, regarde ta vie, puis tu sais, puis... Ça descend vite, là, mais vraiment, vraiment vite, là, que j'ai vraiment l'impression... Je suis une bonne à rien. Là. Je suis une absolument bonne à rien. Et il faut pas que les gens le voient, mais pas du tout. Bon, mais ce feeling-là, là, quand je le vis, puis ça commence à prendre toute la place, puis je sens l'émotion grossir en dedans, puis une lourdeur qui s'installe, qui m'est tellement familière en plus. J'ai plus de perspective. Je suis envahi par elles. C'est les émotions. J'ai toujours la métaphore de l'eau. Là, je trouve que c'est tellement parfait. T'as l'impression que l'eau monte, puis ça monte, puis ça monte, puis ça monte. T'es sur le bord de t'étouffer. Là, t'es sur le bord de te noyer dans certaines de ces émotions. Là, quand c'est intense comme ce que je vis là, ça peut venir très vite m'amener là. Puis sans cette perspective, ma respiration devient de plus en plus courte. C'est comme si le fait de prendre une grande inspiration, ce qui me ferait du bien, bien sûr, ferait juste grossir l'émotion, genre, que je veux tant éviter ou quelque chose. Puis si j'y fais de la place, ben ça va grossir encore plus, puis encore plus, puis encore plus, puis à un moment donné, ça va m'anéantir. Donc au contraire, au lieu d'aller chercher l'expansion que j'aurais besoin pour faire de la place à ce qui est là, qui est évidemment... une information importante, c'est un message, une émotion, c'est là pour une raison, ça va être entendu, il y a un besoin qui cherche à être répondu, en fait. C'est pour ça que c'est là. Donc, quand moi, j'ai le réflexe, au contraire, de me refermer sur les émotions que je vis, d'essayer de les étouffer, de gagner le dessus, de les enfouir, de les tasser, C'est comme si j'avais le réflexe de vouloir contenir la boule, mais c'est parce que j'ai pas accès à l'information qui est là, j'ai absolument pas accès au besoin qui est en arrière, qui risque d'être étouffé avec l'émotion, donc non adressée. Donc une autre blessure qui s'ajoute dans le tas de blessures que je porte. Et pourtant, dans ces moments-là, et vu que j'ai un paquet de gens extraordinaires autour de moi qui m'aiment assurément, qui ne voudraient absolument pas savoir que je suis en train de vivre ça, c'est exactement ce que j'aurais besoin de me virer vers ces gens-là. Et pourquoi est-ce que j'ai autant tendance à rester pris dedans, à ne pas aller vers eux, à chercher à gérer tout, tout seul? Cette spirale-là émotive, évidemment, m'amène rapidement vers le fond. Vu que j'ai pas de perspective, je sais pourtant, je commence, puis là je pars, puis je suis le moins que rien, puis ça descend, puis ça descend, ça descend, puis vraiment après quelques minutes des fois, là, donc par le temps que je trouve que ça fait vraiment trop mal ce que je suis en train de me faire, puis que je commence à regarder vers le haut de la spirale où, d'où je suis parti, là, si on veut, c'est là que je me rends compte à quel point basse que je suis rendu, puis que là, le mal est fait, si on veut. Puis c'est comme si j'essayais, en le gérant tout seul, de faire du sens avec tout ce que je vis, tu sais, de faire tous les liens moi-même, d'arriver à mettre de la perspective sur l'expérience, justement, puis de mettre ça dans une belle boîte, toute parfaite, avec un beau ruban rouge, tu sais, que là, regardez, ça, c'est fini, là, c'est contenu, genre, puis d'attendre que ça passe. Et après, j'irai en parler. Après, j'irai chercher de l'aide. Mais... c'est comme si pendant, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de le vivre tout seul ou je vois pas le choix de le vivre autrement. Et le problème là-dedans, pour moi en tout cas, c'est qu'une fois que ça arrête, parce qu'au moins, à chaque fois que je vis ce genre de truc-là, c'est qu'à un moment donné, ça arrête. Mais là, je me convainc que j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin d'aide. J'ai pas besoin d'en parler parce que c'est fini. Puis là, toutes les peurs de déranger l'autre, puis tout le kit que je vous parle depuis le début, ça remonte, puis ça prend beaucoup plus d'ampleur que ce que je viens de vivre de toute façon. Puis là, je tombe dans le pattern de me dire, bon, de toute façon, c'est réglé, là, ça reviendra plus, jusqu'à temps que ça revienne, évidemment. J'essaie de me leurrer, et ça marche jamais. Une fois sorti du bois, ça a tellement l'air moins pire que là, ben je peux facilement encore là, minimiser ce que j'ai vécu, le tasser, jusqu'à la prochaine fois. Donc, je ravale. J'oublie, puis voilà. Fonctionne aucunement, mais bon. Et pourtant, juste de jaser quelques minutes, vraiment, là, avec quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui fait juste, qui voudrait pas me nuire, si on veut, là. Quelqu'un en qui j'ai relativement confiance et qui a une bien meilleure opinion que moi dans ces moments-là, en plus, qui a une perspective sur ce que je vis probablement beaucoup plus grande que la mienne. Exemple, mon chum, n'est-ce pas? Ça viendrait complètement rehausser mon humeur d'une fraction de seconde à l'autre, c'est certain. Puis en réalité, là, ça devient un rehausseur d'humeur, peu importe ce que je lui dis, peu importe si je lui parle. Je pourrais lui partager comment je me sens, ce qui est arrivé, c'est quoi je suis en train de me faire, la spirale dont je vous parle, je pourrais partager tout ça, mais c'est même pas nécessaire. Des fois, oui, t'as besoin de ce baume-là, d'être entendu, t'as besoin d'un recadrage, t'as besoin d'être rassuré, encouragé, mais des fois, même si on peut juste parler de d'autres choses, ça vient me sortir du trou noir, ça me change les idées, ça me donne la perspective que j'ai besoin. Donc, ça serait facile, autrement dit, d'aller chercher de l'aide pour moi. Ça serait facile. Encore là, j'ai pas de bonne excuse de pas le faire. Tous les bénéfices sont hyper évidents. Mais toutes les craintes que j'ai énumérées au plus haut, là, exemple, la peur d'être trop lourde, trop élevée pour l'autre, pour lui, même si c'est mon chum, même s'il m'adore, puis même s'il a une super bonne oreille, ben, ça s'estompe, ça se dissipe. Puis, aussitôt, là, si on veut, là, aussitôt que je suis en sa présence, je me rends compte que j'ai peur pour rien, qui est là pour moi, que c'est ça être en couple de toute façon, puis que je suis souvent là pour lui, puis que c'est d'égal à égal, puis c'est ça l'amour. Puis je veux dire, je le vis souvent d'ailleurs. Cet élan-là, je l'ai aussi, des fois, vers l'autre, et ce de plus en plus. Que ce soit pour recevoir, et même encore plus pour offrir mon aide, parce que c'est une autoroute, c'est dans les deux sens. Je vous recommande d'aller à la découverte de votre réseau de support si vous me dites, je sais pas la prochaine fois que ça va mal aller, à qui je peux appeler? Je pense qu'il n'y a personne, mais prenez le temps, quand ça va relativement bien, de vous faire cette liste-là, même peut-être réellement, là, écrire des noms. Parce que quand ça ne va pas, on ne se souvient plus de rien, on n'est pas là, c'est difficile de demander de l'aide, donc avoir une liste, ça va juste nous aider, là. Fouillez tant que vous ne l'avez pas trouvé. Il y a tellement d'adultes, je dis, c'est facile de faire des amis hein, quand on est enfant. J'en parlais à ma fille récemment, puis c'est facile, ma fille a 10 ans, puis elle se fait des amis comme de rien, tu sais. Plus tard, plus vieux, on dirait que c'est bizarre, on sait comme plus trop comment, on sait plus trop comment aborder quelqu'un, tu sais, le « tu veux-tu être mon ami coché oui, coché non », ça passe plus là, 45 ans, donc on n'a comme pas, mais c'est tellement important, c'est important. Puis ça peut être, j'ai besoin de 30 amis moi, parce que c'est ça, je suis un gars de gang, je suis une fille de gang, mais ça peut être j'en veux une ou un bon que je sais que je peux appeler n'importe quand. Validez ce besoin-là parce qu'on l'a tous. Soyez cette personne-là pour l'autre aussi. Il y a quelque chose de... C'est souvent, on cherche un sens à notre vie vraiment loin, vraiment creux. Là. D'être ce réseau de support-là pour quelques personnes dans la vie qu'on aime vraiment, c'est énorme. Là. C'est énorme, ça vient remplir et nourrir ce besoin-là qu'on a en tant qu'être humain, c'est certain. Et l'autre chose que j'ai pas encore beaucoup parlé sur le podcast ou ailleurs, parce que bon, ça peut être tellement tranchant comme sujet, mais en même temps, j'ai comme pas le choix de ne pas... C'est fou, j'en parle aussi, là. J'ai tellement eu à, et je l'ai fait, développer mon rapport à la spiritualité dans les dernières années pour pouvoir m'en sortir. Et spiritualité, je choisis le mot parce que, tu sais, je vous parlerai pas de Dieu, là, c'est pas de ça que je parle. Je parle, que ça soit, bon, l'univers, source, ou n'importe quoi, là, que s'il faut rattacher un nom, une étiquette à la chose, souvent je le fais pas. C'est juste l'idée de pas se sentir seul, parce qu'on ne l'est jamais, là, une espèce d'essence qui nous entoure, qui a tout le temps quand même l'air d'être là pour nous sans trop la comprendre, cette espèce de connexion-là qui est tout le temps là quand on en a besoin. C'est une relation qu'on gagne tellement à nourrir et à reconnaître parce qu'il y a des moments qu'on va peut-être vivre seul, même dans les meilleures volontés, là, même super bien entouré. Il y a des moments, peut-être à 4 heures du matin, à un moment donné, si tu ne files pas, que... Juste le fait d'avoir l'impression d'être entouré de cette essence-là, de cette espèce de force qui est plus grande que toutes nous mis ensemble, ça a tout changé pour moi. Le fait de m'ouvrir au fait que c'est clairement pas moi qui mène le spectacle ici, là, c'est clairement pas moi qui a un réel contrôle et un réel pouvoir sur la majorité des choses qui m'entourent et qui m'arrivent, a non seulement réduit la pression que je pouvais porter sur mes épaules de tout gérer mes choses, puis tout gérer les choses des gens autour de moi que j'aime et tout ça, tout seul, mais aussi cette reconnexion, parce que j'ai vraiment la croyance là, qu'on est tous connectés, c'est juste qu'on l'oublie, cette connexion-là, par moment, et que ça aussi a fait des ravages, en fait, là. Ça m'a sauvé la vie maintes et maintes fois. Il y a des moments que j'ai vécu, que j'ai traversé, que je ne peux pas m'expliquer. Ce n'est que je me suis sentie accompagnée malgré le fait que je suis peut-être toute seule, assise à terre dans une chambre noire. Là. Il y avait quelque chose qui était là avec moi. Et si la souffrance que j'ai vécue m'a ramenée à cette vérité-là, s'il y avait juste ça comme plus-value, là, ben je suis vraiment... immensément reconnaissante à la souffrance que j'ai pu vivre juste pour ça. Je me sentirai jamais aussi seule qu'avant d'avoir retrouvé cette reconnexion-là à cette espèce d'essence-là dont je vous parle. Puis elle est là aussi pour vous, si vous le souhaitez. Si vous souhaitez vous ouvrir à cette possibilité-là, lui offrir votre attention. Le fait de savoir pour sûr que présentement, il y a au moins une personne qui se sent seule au monde, qui se sent incompris, et pire, qui sent que personne ne serait vraiment affecté par la souffrance qu'il, elle, y elle vit, que cette personne-là sent réellement, parce que je l'ai déjà senti ça, fait que je sais c'est quoi, sent réellement que même si je partirais, il n'y a pas personne qui serait affecté, ça me tord le cœur. J'ai pas d'autres mots vraiment pour l'exprimer. C'est la raison du podcast. C'est ce que je fais. Que peu importe le bobo, la nature du bobo, sa source, son intensité, Je crois sincèrement, il faut pouvoir le valider, reconnaître ce qu'on vit, ce qui fait mal, valider le vécu qui est évoqué en nous dans le moment, puis de se permettre la réponse au besoin qui est derrière, en recherchant un support de confiance, qui oui, ça peut être nous-mêmes parfois, c'est correct aussi, c'est ça que j'apprends présentement, là, je viens d'avoir une séance de coaching d'ailleurs, puis c'était ça, c'était vraiment de reconnaître que oui, je suis capable de me supporter moi aussi, quand c'est ce que j'ai besoin ou quand c'est ce qui me reste, si on veut, et ou quelqu'un d'autre en qui on a confiance, qui saura nous accompagner d'une façon bénéfique, évidemment sans jugement et sans attente particulière du tout. Maintenant, je vous demande si ça va présentement. Quand vous regardez autour de vous, quand vous pensez aux gens qui vous entourent, si vous croyez qu'il y a quelqu'un qui ne va pas, s'il vous plaît, validez le sentiment que vous portez dans ce moment-là. Cet élan-là que vous avez vers l'autre, validez-le et tendez la main. D'une façon ou d'une autre, trouvez une façon de tendre la main à la personne qui pourra avoir besoin de vous, parce que au pire qui va arriver, la personne va vous dire « non, ça va, puis non, merci ». Et ça va être vrai ou pas, mais vous allez avoir fait ce que vous pouvez. Parce qu'en tant qu'être humain, cette connexion-là est primordiale. Elle est primordiale. Et si vous avez écouté le troisième épisode du podcast qui s'appelle « Mon ami », alors, vous comprenez. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. J'espère que vous y avez trouvé une valeur, comme dans tout ce que je fais. J'espère que ça vous parle, soit pour vous, soit c'est vous que vous reconnaissez et où vous reconnaissez quelqu'un autour de vous. Entre autres, mon but, c'est d'aider, mais mon but, c'est aussi d'aider les gens à aider d'autres gens, parce qu'il y a tellement de monde qui a besoin d'aide. Que si on ne se met pas toutes les mains à la pâte, là, je ne vois pas tant comment qu'on va y arriver. Donc, on a toute une utilité dans le fond. Si ça vous dit, j'adorerais que vous veniez, si ce n'est déjà fait, nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Le Divan, sur Facebook, Instagram et TikTok. J'adore tous vos commentaires, j'en ai de plus en plus, je trouve ça fascinant. Tous vos likes, vos questions, on avance tous ensemble. Je sens vraiment qu'on est en train de créer une communauté. Il y en a plein de communautés extraordinaires. Je suis juste contente de savoir que j'en ai une petite aussi à côté qui nous appartient tous. Tu sais, je sens vraiment que c'est comme tout le monde en fait, qui en fait partie rajoute du bon là, dans une communauté, puis on ne peut pas en avoir trop jamais. Donc, venez le faire. Ça va me faire plaisir. J'essaie encore de vous répondre tous et de vous répondre le plus rapidement possible, disons 24 heures. Donc, si ça vous dit vraiment, vous êtes les bienvenus, vous le serez toujours. Merci infiniment d'être là. Merci de faire ce que vous pouvez pour améliorer votre vie et améliorer la vie des gens qui vous entourent quand vous le faites. Sur ce, je vous souhaite la plus belle des semaines.